Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Ouh, ça m'a donné chaud.
Oh, je pourrais parler de ce qu'il y en a pour vous.
Salut, c'est Clément.
Et salut, c'est Louise Petrouchka.
Et vous écoutez bien le son d'après. Bonjour à tous, vous écoutez bien un nouvel épisode du Son d'après. Et cette semaine, on est accompagné d'un invité, on est ravis, mais avant de le présenter, je suis accompagné évidemment de ma meilleure binôme. Je vous présente
oui.
Louise Petrouchka.
Bonjour. Comment ça va? Ça va formidablement, je suis ravie d'être avec notre invité ici présent.
Tout à fait, parce qu'on est accompagné de Robin.
Salut, quelle salut, belle salut. Énergie autour de cette table.
Oh ouais.
On T'as est très content de te recevoir.
Dès qu'on allume le micro, l'énergie elle monte.
Faut que je vais venir à votre niveau petit à petit. Là.
Pas
je suis impressionné évidemment d'être face à vous deux, ces deux regards.
Ouais, c'est vrai qu'on t'encercle un peu là. Avant de commencer, Robin, je vais te demander de te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas encore.
Très bien. Donc, Robin, enchanté d'être là. Donc, Robin aka Beloka. Parce que souvent, en fait, ça m'est déjà arrivé d'aller en soirée, de discuter avec quelqu'un. Il lui dit, ah, salut, c'est Robin. Et tu sais, il bug un peu et je dis Beloka, ok Beloka sur Instagram. À force de parler avec des gens sur Instagram, tu commences à mieux connaître leur blase ou à voir leurs photos, mais sans vraiment les connaître. Donc, quand tu dis ton vrai prénom, ils ne te reconnaissent pas. Donc, Oka Beloka, pour ceux qui me suivent, les quelques-uns peut-être qui me suivent sur Instagram, je suis ce qu'on appelle éditorialiste au sens large du terme. À savoir que présentement, je suis DA chez Sony Music et The Orchard. The Orchard qui est le distributeur international de Sony, sur lequel il y a par exemple Bad Bunny. Et on a des signatures locales forcément en France. Et à côté, j'ai créé un média qui s'appelle Jetlag. Initialement, un média qui était une émission de radio sur OKLM et qui est devenu, suite à l'arrêt d'OKLM, un média à part entière qui est maintenant en partenariat avec Brut. Donc voilà, on a une émission sur Brut, on a des réseaux sociaux, on a différentes choses, des soirées, etc. etc. Donc voilà, dans les grandes lignes.
Trop bien. Et bah, écoute, j'ai déjà hâte de te poser des questions sur, enfin un peu plus précisément sur ce que tu fais dans tout ça. Mais avant de commencer. Oui. Louise, est-ce que tu pourrais présenter un peu le podcast pour les gens qui arriveraient du coup avec Robin?
Mais avec joie et plaisir, voyons. Alors, Le Son d'après, c'est un podcast de découverte musicale qui sort chaque lundi, dans lequel avec Clément, on partage nos kiffs musicaux du moment, en espérant aider à alimenter les playlists un peu des gens, de vous qui nous écoutez. Aujourd'hui, on a demandé à Robin de ramener deux morceaux d'artistes qu'il kiffe et dont il voudrait nous parler. Et de notre côté, on a chacun ramené un titre pour lui faire écouter, voire lui faire découvrir. Alors,
j'ai pas cette ambition là, pour être honnête.
Moi, je sais non plus que.
Mais
ça
j'ai
va
envie
pas
de discuter, par contre, j'ai très envie de discuter.
En tout cas, on va parler de musique et ça va être super. Donc, n'hésitez pas à rester et à vous abonner éventuellement au Son d'après.
Parfait. Et bah, écoute, je propose qu'avec après cette belle présentation, on entre tout de suite dans le vif du sujet.
Allez,
Robin, c'est quoi le premier morceau que tu as ramené?
Le premier morceau que j'ai ramené est une sortie assez récente. Alors, je ne sais pas exactement quand sera diffusé le podcast. Donc là, c'est le moment où on a
lundi
le timing
28.
Un petit peu. Le lundi 28. Ça donc, va. Ça fera environ un mois que ce morceau est sorti. Donc, on est sur une sortie assez récente sur un ovni musical d'une artiste qui n'en est pas une, mais qui tend au contraire à devenir une pop star. C'est Saoko de Rosalia. La Rosalia.
Très bien. Ça.
Si tu savais comme je suis heureuse que tu ramènes Rosalia dans ce podcast, j'attendais.
Donc, qu'est-ce que je pouvais amener d'autre? Enfin, s'il y avait deux artistes, dont un des artistes où on m'a pas boycotté.
On t'a silencié.
On m'a dit on en a suffisamment parlé, mais on en parlera quand même.
On va quand même en parler. Mais en tout cas, je suis trop contente que tu ramènes Rosalia parce qu'on en a encore jamais parlé.
Alors,
dans,
je l'ai pas vraiment ramenée, j'aimerais beaucoup.
Elle
est dans nos cœurs.
Aimerait,
et là, c'est surprise.
Ça serait incroyable. Star à domicile. J'adorerais.
Non, mais c'est vrai que par contre, on l'a beaucoup cité dans ce podcast, évidemment.
Oui, et on n'a encore jamais ramené un titre d'elle pour le faire écouter, pour parler d'elle, etc. Donc
alors, soit dit en passant, c'est assez rare, et c'est, je vous jette des fleurs en disant ça, mais qu'il y ait autant de présence autour de, enfin, de la part d'un média, d'un podcast, que vous avez déjà parlé de Cetangana, que vous soyez autant à cœur de parler de Rosalia. Je trouve ça beau. Bah, parce qu'il y a peu, enfin, au final, c'est encore assez peu représentatif en France. Donc,
ouais, je suis assez d'accord.
Donc après, est-ce que c'est notre microcosme d'amoureux de la musique ou est-ce qu'en fait il y a un phénomène un peu plus global? Je ne sais pas et on en parlera tout à l'heure, ouais. Mais ravi.
Ouais, moi je pense qu'il y a un truc de plus global quand même, non? T'as pas cette impression-là, toi?
Alors, clairement, depuis la Fama, il y a un phénomène autour de Rosalia, parce que ouais. La Fama est en train de, enfin, est un tube maintenant en France, ouais. Pas que l'international, et en France, de se dire, on est en 2022, et t'as un morceau en espagnol qui est de la bachata, qui est un tube en France, qui passe à Intermarché de Haute-Loire, où t'as ma mère qui m'envoie un texto, pour dire, ah, j'ai entendu Rosalia tout à l'heure, trop bien. De sa chart sur Spotify, sur toutes les radios. Ok, il y a un phénomène autour de ce morceau-là.
Oui,
après, de là à ce qu'après elle soit identifiée, c'est un feat avec The Weeknd. Est-ce qu'elle est encore identifiée par le grand public? Je ne crois pas. Enfin, y a encore un énorme travail, mais toujours est-il que.
C'est la marrant, moi c'est vraiment le côté microcosme. Alors, parce que moi, tu sais, l'une des raisons pour lesquelles je pense qu'on l'a pas ramené aussi, Rosalia, c'est que moi ça me paraît.
Superstar quoi.
Ça me paraît, ouais, c'est ça, superstar et évident. Mais effectivement, c'est parce que, voilà. Dans le petit milieu ou quoi.
Ouais, mais en fait, c'est évident sans l'être parce qu'on en parle beaucoup sans vraiment en parler en détail. C'est-à-dire que maintenant, c'est tout vrai. Le monde connaît son blaze. Mais en fait, où on parle de quoi, surtout dans les médias en France? De musique française, de rap français, surtout ça qui accapare l'énorme majorité, en fait, des conversations musicales. Ouais. Et autant sur le rap US, moi, je trouve qu'il n'y a plus grand-chose de très intéressant à dire, autant sur d'autres courants musicaux et d'autres pays, c'est là où, justement, ça bouge et il y a des choses complémentaires au rap français à les raconter. Donc c'est très bien que, par le biais de ce podcast, on aille un peu dans ce détail.
Trop bien. J'aurais envie d'enchaîner sur une question, mais je propose d'abord qu'on écoute le morceau quand même pour qu'on rentre dans le vif du sujet et on a plein de choses à se dire.
Saoko, papi, saoko. Chica, que dices? Saoko, papi, saoko.
Saoko, papi, saoko.
Saoko, papi, saoko.
Cuando pone perla en el collar, te pipian diferente, ya no son perla uno. Cuando los cubitos de hielo ya no se vuelve hielo, se congela uno. Cuando es de noche en el cielo y se vuelve de día, ya todo eso cambió. Cuando el caballo entra a Troya, tú te confías, te ardió. Yo me transformo, me capto de drag queen, yo me transformo. Lluvia de estrella, yo me transformo. Pasa de vuelta, yo me transformo. Como sex siren, yo me transformo. Me contradigo, yo me transformo. Soy todas las cosas, yo me transformo.
Fran me dice que abro el mundo como un manual. Si me muero, como muero, por la boca, como muere, ve. Sé quién soy, a donde vaya, nunca se me olvida. Yo manejo, Dios me guía. El loco te loco, bebé. Kinky cuando te hablo un bebé. Un tewer con tie-dye, bebé. La calle no vida, bebé. Como un pavo real, bebé. La cerilla quemar, bebé. Tu cara, tu mira, bebé. Si te vuelvo a besar, bebé.
A ver si sirven de algo.
C'était Rosalia,
oh là là.
Saoko.
Je suis si heureuse.
Bon, bah, ça.
Qu'est-ce qu'on en pense par ici du coup du morceau?
Oh là là, Rosalia, pénible, des tubes à chaque fois.
Non. Alors, mais... est-ce que c'est un tube? D'après
alors,
vous, c'est moi qui vais poser les questions.
Non, mais enfin oui, pas. Mais si, quand même. C'est ça qui est fort, c'est-à-dire que c'est Rosalia et qu'elle a fait des tubes, c'est-à-dire elle a fait Ozuna, J Balvin, les featuring classiques qui passent en mode pop, tout le monde écoute et c'est super et c'est incroyable. Mm-hmm. Ça pour moi c'est les tubes de Rosalia, c'est les fameux featuring, tu vois. Et là, elle revient, elle est en mode je vais faire un album et ça sera peut-être un peu chelou, mais ça sera à moi. Et en fait, comme elle a déjà prouvé ce qu'elle savait faire avec les deux albums précédents, elle arrive, elle fait ce qu'elle veut et c'est quand même un carton, je veux dire d'audience.
Tu veux dire de respectabilité de
Oui, c'est ça. Quand je dis c'est un tube, c'est pas genre. Non, c'est pas un truc qui va passer sur Fun Radio. Mm-hmm. Mais c'est.
Tout le monde est unanime pour dire que c'est un grand morceau.
Oui.
C'est ça que tu veux dire.
C'est ça.
Donc un succès d'estime.
Ouais, voilà.
Ah ouais, c'est marrant. Bah, alors je vais. Alors du coup.
Ah oui, c'est vrai que toi t'es pas d'accord. Vas-y.
C'est pas que je suis pas d'accord. Alors
par principe.
Non, pas du tout. En plus, vraiment, c'est. On en a déjà vaguement parlé hors antenne, mais. Je crois que il y a une manière dont tu te prends le morceau. Moi, je sais que je me prends le morceau vraiment en m'attendant le clip, et je me prends plus le clip clairement que le morceau.
Ah ouais.
Il y a pas à dire. Enfin, mais parce que ça m'en met plein les yeux. Et ça, c'est l'autre débat qu'on avait. Le petit truc qui m'a un peu dérangé avec le clip, c'est que j'ai vraiment eu cette impression, et j'ai le même sentiment depuis quelques temps avec Rosalia, c'est que j'ai vraiment ce truc de « je veux t'en mettre plein la gueule ». C'est comme si quelqu'un vraiment veut t'éblouir. Et du coup, je crois que je suis resté un peu à distance, et c'était du coup agréable là, de réécouter, mais sans le clip. Parce que le morceau en soi, je le trouve effectivement chamé, mais le clip est venu un peu parasiter. Tu sais, ce truc de « je préférais presque avant quand tu forçais mon... » Enfin, tu forçais. Je sais pas si d'ailleurs elle force tant que ça. Mais tu cherchais moins à m'en mettre plein les yeux.
Ok, ok, parce que pourtant elle avait toujours une démarche visuelle très forte.
Forte, mais je trouve que là, il y a vraiment, c'est encore un cran au-dessus. J'ai l'impression en fait, tu sais, ça veut, ça.
Ouais,
okay. Et je suis arrivé à un moment en me disant, je sais pas si j'ai besoin de tant que ça. Tu vois, parce que la musique effectivement défonce et elle a juste un charisme, enfin tu vois, évident. Donc. De vouloir me bastonner avec une réale de clip vraiment qui te tabasse.
Par Valentin Petit d'ailleurs, soit dit en passant.
Ah oui, c'est vrai, c'est Valentin Petit aussi, très bien.
Et on est en Ukraine.
Il est fort en ce moment là. Il y a eu ça, il y a eu ASAP Ferg là. Ouais, il est dans un bon run là.
Mm-hmm.
Voilà, donc je suis juste curieux et puis même d'écouter l'album parce que.
Ah bah ça oui, moi je suis
là, moi il y a un truc dans ce morceau là de déstructuré qui me parle bien.
Ouais.
Avec ces petites interludes de piano au milieu, et puis ce côté tout simplement qui tabasse.
Ah, parce qu'après, de manière plus globale, on se faisait la réflexion avec ma boss en écoutant ce morceau, donc le jour de la sortie, le vendredi, ouais. Où on écoute évidemment toutes les sorties, les New Music Friday et compagnie, pour voir ce qui est sorti. Et en fait, tu te dis, mais heureusement qu'il y a encore des artistes comme ça qui osent et qui innovent. Et en fait, je trouve que ce morceau est très bien. Mais je trouve que ça met encore plus en lumière la faiblesse de l'innovation musicale qu'il y a en face. Où on a très peu d'innovation, on a très peu de prises de risque des bonnes vraies prises de risque. Soit des morceaux de 2 minutes très déstructurés où il y a un mélange de styles où là en effet on a du jazz, on a des riffs de néo-métal, on a un espèce de son de synthétiseur, on a de la batterie industrielle. Enfin, où en fait ça pourrait être un gloobie-boulga total et en fait tu peux dire soit c'est du génie, soit c'est n'importe quoi, peu importe. Mais en tout cas, ce morceau il est fort.
Il se passe un truc quoi.
Versus en face. Un Xème morceau de rap ou ce genre de choses. Et en fait, tu te dis, putain, mais elle fait du bien quoi dans ce paysage musical un peu.
Mais de ouf.
Voilà.
Ouais, et puis c'est agréable en plus, même si on en a parlé de sa renommée et du niveau à laquelle elle est, mais c'est quand même une artiste importante et d'arriver avec ce type de proposition, je suis d'accord avec toi, ça fait du bien quoi.
Ouais, t'en as pas, en tout cas des gros artistes maintenant qui ont de plusieurs dizaines de millions d'abonnés sur Instagram, qui font des dizaines de millions de streams, qui sont sur une dynamique, à part Kenny qui fait toujours un peu des délires, mais sinon, il y a assez peu, je trouve, de délire comme une MIA pouvait le faire à l'époque. Quoi. Parce que l'époque, par exemple, de l'album Kala ou t'as Paper Planes, tout le monde connaît Paper Planes. T'écoutes le reste de l'album, c'est un putain d'ovni musical où ça part dans plein de délires perchés. Et voilà, je trouvais qu'à l'époque, t'avais des artistes qui se servaient d'un tube pour mettre en avant leur musique et une vraie proposition originale. Maintenant, t'as l'impression qu'on a besoin de tubes pour des tubes et que derrière, en fait, tu fais des sous-morceaux qui servent les tubes.
Ouais, c'est exactement. Pour faire un album, moins histoire de dire, mais voilà. Ouais. J'y pense du coup, tu nous parlais d'écoute de morceaux tous les vendredis, tu nous parlais de ton travail pour Sony. Ça consiste en quoi exactement du coup?
Alors DA, ça consiste à chercher des artistes, les trouver, discuter avec eux, voir si quel type de contrat ils cherchent, les signer et les accompagner après dans leur développement de carrière.
Ok, donc tu cherches majoritairement en France ou
je
plus
cherche
large que ça?
Majoritairement, en fait, je suis DA pour le marché français. Donc du coup, c'est des artistes qui sont à même d'être sur le marché français, mais aussi on cherche des artistes qui ont des potentiels internationaux parce que donc The Orchard, pour être un peu précis, c'est un distributeur donc américain qui a été créé aux États-Unis, qui a été racheté par Sony il y a maintenant une dizaine d'années et qui a une vocation vraiment de développement d'artistes sur plusieurs territoires. Donc on est vraiment dans cette idée de trouver des artistes et quand il y a un potentiel international de pouvoir appeler ses collègues d'Espagne ou ses collègues d'Amérique latine et dire tiens, on a signé ça, ça te dit, on le développe ensemble, nanana, on peut faire des feats, on peut faire ci, on peut faire ça. Donc voilà, c'est marché français et marché international aussi. Mais voilà, je vais pas signer par exemple si je vois un reggaetonero énorme en Colombie, je vais pas le signer parce que c'est pas propre au marché français, je vais plutôt dire à mon collègue colombien
bien sûr, tiens, regarde ce mec là, est-ce que tu connais? Voilà.
Moi, je voudrais revenir un peu sur Jetlag parce qu'on a vite fait parler pendant ta présentation, mais en fait, on n'a pas expliqué Jetlag, c'est un média
On n'a pas expliqué, c'est vrai.
On n'a pas expliqué ce que c'est.
Bah alors.
C'est un média qui parle globalement, alors tu vas me dire si je résume bien, de musique latine urbaine. même si j'aime pas trop le mot urbain.
Alors de musique en espagnol, hispanophone, on va dire, ouais, okay. Parce qu'on parle de Rosalía qu'on va pas limiter à latine, tu vois, et de Setangana aussi, donc on va dire que maintenant c'est autour principalement de la musique en espagnol.
Okay. Je me demandais s'il y avait le côté brésilien, portugais aussi.
Beaucoup moins. Okay. On le fait un petit peu, mais au final c'est moins notre champ d'expertise, ouais. Et on va aussi, plutôt que de dire que c'est de la musique latine et de la musique rap ou urbaine, on va vraiment aussi de plus en plus parler de pop, de R&B, ouais. Même de folk aussi ou de musique tradie. Donc c'est
grave.
Plus.
J'ai vu que vous faisiez des carrousels d'explications là sur les différents
tout
genres.
Tout à fait. On
essaye
maintenant un peu
là.
De faire de faire de l'éducation à ce niveau-là, ouais, et de pouvoir avoir un post où ça va être juste la dernière photo de Rosalía sur une moto versus à côté un peu plus de rentrer dans le détail, que ça soit d'albums, que ça soit de courants musicaux, mm-hmm. Et voilà. Un peu
ouais,
ce
et puis
côté
c'est bien fait parce que c'est très ludique. Moi j'ai trouvé ça très chouette.
Eh bien merci beaucoup. Donc voilà, historiquement en fait c'était une émission sur OKLM pour parler de quel était l'équivalent du rap en France, mais dans tous les pays du monde. Un peu c'est pour ça, d'où le nom de Jetlag. Tu te balades dans le monde et tu vas voir qu'en fait, en Afrique du Sud, c'est de la gomme sud-africaine, donc plutôt un mélange d'électro et de rap, etc. Le baile funk au Brésil. Et en fait, petit à petit, on s'est recentré sur la musique en espagnol parce que c'était vraiment notre cœur de. Notre musique de cœur. On se disait, mais en fait, c'est là qu'on est les meilleurs. Pour parler de la musique afro, il y a d'autres médias qui, en fait, en parlent mieux parce que c'est vraiment leur expertise. Et nous, de par soit nos origines, soit nos appétences musicales, pour plein de raisons, on s'est dit, en fait, parlons de là où on est vraiment très bon, c'est la musique en espagnol. Donc en fait, on est parti à fond là-dedans.
Ok. Et toi, du coup, ça devient d'où ce truc ? C'est toi qui as cofondé le...
Je l'ai cofondé avec moi-même.
Voilà, celui-là. J'étais pas sûr que...
Ouais. À la base, en fait, je suis tout seul à l'avoir monté sur OKLM. Okay. En fait, c'était à l'époque où j'étais chez Deezer en tant qu'éditorialiste de playlists.
Okay.
Je faisais des playlists de moods et des playlists de musique latine. Et en fait, on m'a contacté. Est-ce que ça dit de monter tel média ? Donc j'ai envoyé un pilote, nanana, et enfin, telle émission. Donc voilà, à la base, c'était juste une émission, c'est devenu un média quand OKLM s'est arrêté, et entre temps il y a des gens qui sont différentes personnes qui sont rentrées dans l'aventure, qui ont créé la rédac de Jetlag, dont Joff qui a été le tout premier, qui au bout de 2-3 émissions m'a envoyé un email pour me dire t'as parlé de tel morceau de Major Lazer, trop bien, est-ce que t'as besoin de quelqu'un, et voilà, petit à petit plusieurs personnes sont venues dans l'aventure sur différents domaines.
Du coup vous êtes combien aujourd'hui ?
On est entre 6 et 10 sur la version élargie, parce que vu qu'il y a la version maintenant, l'émission sur Brut, où t'as par exemple Pedro Lito qui est dans Mouais Vélo, lui qui vient en tant qu'intervenant, mais qui est juste intervenant pour cette émission, ou qui mixe avec moi pour certaines soirées, mais qui est moins dans le day to day. Enfin voilà, donc au final, en version élargie, on est 10, en version serrée, on est 6.
Donc Mouais Vélo, un duo de DJ avec Grand Pamini et Pedro Lito, qui font d'excellentes soirées.
N'est-ce pas ?
Voilà.
Et l'alimentation générale, souvent.
Et il te vient d'où, du coup, cet amour de la musique en espagnol ?
C'est la petite minute émotion famille de ma grand-mère.
Bah, j'imagine.
Voilà, de la grand-mère, de la abuelita espagnole, qui en fait... Au final, je vais pas mentir en disant j'écoute du reggaeton depuis que j'ai 10 ans et les premiers morceaux. En fait, en soi, j'ai vraiment été habitué à écouter du flamenco et le baigner dans cette culture, on va dire, espagnole. Mais c'était plus par habitude des week-ends ou des moments passés avec mes grands-parents, plus que par amour conscient de la musique.
La musique qu'écoutent tes parents.
Exactement. Donc tu baignes là-dedans, mais tu t'es pas vraiment tu conscientises pas le truc, en fait. Ça te paraît normal. Et puis après, de fil en aiguille, je me suis mis à écouter plein d'autres genres musicaux, avoir des coups de cœur d'adolescent, etc., etc. Et vraiment, il y a eu un espèce de retour de bâton positif, j'ai pas une meilleure expression pour le dire, mais le moment où j'ai découvert Rosalía, où en fait se dire, mais en fait, tu peux à partir de cette musique tradie-là en faire des choses extraordinaires qui correspondent à tes codes actuels et à la musique du moment. Et typiquement, si Rosalía avait vu le jour 10 ans plus tôt à l'époque de M.I.A., je pense que j'aurais encore plus surkiffé Rosalía. Mais à cette époque-là, c'était plus sur une M.I.A. que je tombais, ou sur ce genre de groupe ou d'artiste qui déjà expérimentait entre de la musique tradie et les codes du moment.
Trop bien. Et du coup, tu te souviens de comment t'as découvert Rosalía, genre ?
Alors, c'était avant la sortie d'El Malquerer, mais c'était pas sur le premier album. Je crois que c'était avec Malamente. Et je pense que je... Bonne question. Okay.
Je vais devoir passer dans un mec.
Malheureusement, il n'y a pas un peu ce côté. Je sais pas, j'étais à une soirée et d'un coup,
je me souviens la première fois.
Moi, je me souviens, de ouf.
Ouais.
Moi, je me souviens, elle était programmée à We Love Green. Et moi, je vois, à l'époque, je bosse chez Mademoiselle et je vois passer la programmation et je suis en mode, tiens, je vais voir s'il y a des artistes que j'aime bien, que je peux repérer, choper en interview ou que sais-je, tu vois. Je vois Rosalía, je suis en mode, c'est qui elle ? Je clique sur play sur El Malquerer, je fais, pas oui ! Nouvelle artiste favorite tout de suite. Vous êtes ma nouvelle personne.
Il est sorti quand déjà l'album? C'était quoi?
C'est en 2018, c'est en novembre 2018.
Ok, d'accord. Ouais,
et moi, j'arrive, je pense, du coup, elle était programmée en 2019 à Willow Green. Et donc, dans les premiers mois de cette année-là, je découvre. Et là, je dis, mais attendez, il faut que je fasse un article sur cette meuf. C'est incroyable ce qu'elle fait, c'est trop bien. Et du coup, derrière, tu découvres en plus que la meuf, elle a étudié le flamenco, que son album, il est basé sur un roman de, je sais pas, du Moyen-Âge ou de je sais plus quelle époque et tout. Enfin, genre, c'est incroyable. Elle est trop forte. Est-ce que ça se voit que je l'aime bien?
Ah voilà, on sent tout cet amour.
Quel amour dans cette salle, on a chaud, on a chaud. Mais en plus, ça c'est marrant. Je crois qu'en fait, pour répondre à ta question, je crois que j'ai découvert tout bêtement, parce que vu que je bossais chez Deezer et qu'on me pitchait les morceaux, on me l'avait pitché. En fait, c'est pour ça que ça m'a pas marqué dans le sens. Ça faisait partie limite du taf. Et en fait, waouh. Et c'est marrant que tu dises ça aussi par rapport aux dates, parce que tout à l'heure, je suis retombé, en gros, à chaque fois avec Jetlag, quand on fait des posts et, ou quoi, on tag les artistes.
Ouais.
Évidemment, Rosalie, on l'a tagué à peu près 147 fois. Tout à l'heure, pour m'amuser, je suis remonté à la toute première fois et je suis retombé sur un message de septembre, je crois, 2018, où je lui ai envoyé un DM en mode, ouais, je vois que t'es à Paris, là, est-ce que ça te dit, on fait une interview et tout et tout. Elle n'a évidemment jamais répondu, mais entre temps, on a pu, grâce à Deezer, la croiser.
Oui, c'est ça, parce que j'ai cru voir passer une photo.
Il y avait une interview Deezer. Là, on va refaire normalement des choses pour la sortie de son prochain album et tout. Mais en tout cas, c'était marrant de retomber sur ce premier message et de se dire avant que El Malqueré ressorte, donc juste au moment du premier single Malamente, je crois que c'était le premier, de se dire yes, allez, on la lâche plus celle-là.
T'as trouvé ta championne, quoi.
De ouf.
Un peu ça, donc c'est pour ça on l'attend au tournant, là, n'empêche.
L'album arrive bientôt, là.
Le 18 mars, je crois.
Très bien.
Mais en plus, c'est ça qui est intéressant, c'est que. Enfin, c'est intéressant et en même temps casse-gueule pour elle, je pense. C'est que son dernier album a si bien marché, elle l'a tellement propulsé sur un truc international où elle a fait du coup des featuring avec tu vois, les plus grosses têtes d'affiche reggaeton et compagnie, que du coup derrière, pour repartir sur un truc comme elle a fait sur le deuxième album, parce que le premier c'était complètement flamenco. Du coup, ouais, c'est un peu.
Ah, le tournant, quoi. De toute façon, c'est un peu le tournant du. Bah là, c'est le troisième, comme tu dis, mais on a un peu l'impression que c'est son deuxième album, presque. Mais ouais, c'est le tournant de. Tu vas pas faire la même chose, parce que sinon, tu vas un peu lasser. Enfin, même toi, tu te lasses en tant qu'artiste et tu peux lasser ton audience. Donc, tu vas partir sur d'autres routes. Est-ce que tu vas avoir envie d'avoir la même homogénéité que sur El Malqueré? Parce que c'est, comme tu dis, album concept, autour de vraiment d'une idée globale, d'un roman. Là, je pense qu'elle part un peu dans plein d'autres directions. Elle le dit même dans les paroles de Saoko. En gros, elle se transforme et tu le sens qu'elle a fait la femme à Saoko. Déjà, tu étais dans deux DA totalement différentes, donc un peu apeuré, quoi, quand même.
Il y a une petite pression là, quand même.
Bah, franchement,
on n'a pas envie d'être déçu.
Ouais, je comprends. Ouais.
Et puis, il y a une pression aussi, sachant que Tangana a sorti le meilleur album de la décennie entre temps, donc faut arriver à être au même niveau.
Bon, on savait en t'invitant qu'on allait s'entendre sur ce point de vue là, mais on parlera de ces Tangana, je pense, juste après.
Oui, pardon,
en l'occurrence. Est-ce que, du coup, quand même, pour revenir dans ces souvenirs, est-ce que t'as un artiste ou une artiste, du coup, qui est vraiment les premiers souvenirs de la musique, musique en général.
J'aime ce genre de questions, repartons en enfance. Premiers souvenirs musicaux, c'est Sum 41 et Blink-182.
Très bien, ça me parle grave. C'était quoi?
C'était vraiment, tu vois, t'as 13 ans, t'es ado, t'as ton voisin qui te fait découvrir de la musique parce qu'en fait, sa grande sœur lui a fait découvrir de la musique.
Sûr.
Tu t'es mis à faire du skate, tout ça, t'es en Haute-Loire. Et donc, évidemment, t'es un peu amoureux en plus de la sœur de ton voisin, donc tu te mets à écouter de la musique avec. Et vu que cette charmante personne du prénom de Marion, si tu nous écoutes par hasard d'ailleurs, on ne s'est pas reparlé depuis des années. Voilà, elle te fait découvrir de la musique. Et là, à cette époque-là, bah, c'était le punk rock américain.
Bien sûr.
C'est par ce billet que je suis tombé dans la musique. Et pour compléter ce que disait Marion et le fait qu'elle nous fasse découvrir de la musique, on avait 13 ans et à ce moment-là, elle nous dit « Tiens Robin, je te verrais bien faire de la batterie et toi Adrien, je te verrais bien faire de la guitare. » Une semaine plus tard, j'étais évidemment inscrit à un cours de batterie, on a monté un groupe et c'est parti.
C'est incroyable. Est-ce qu'il a duré, ce groupe?
Il a duré, on a fait de la musique très longtemps. Alors ça a changé de nom, ça a changé de membre et tout, mais on a fait de la musique jusqu'à nos 20 ans ensemble. Et après moi j'ai continué dans d'autres aventures lui aussi. Mais tout ça pour dire que ça part juste d'un coup de cœur humain pour une demoiselle.
J'adore cette histoire.
Et t'es resté batteur comme ça pendant toute cette période-là?
Je suis resté batteur jusqu'à mes 20 ans à peu près dans des groupes, jusqu'au moment où en fait j'en ai eu marre que certains chanteurs ne trouvent pas les bonnes lignes mélodiques ou ne soient pas des chanteurs incarnant la musique comme j'aurais aimé. Et je suis devenu chanteur en fait. Au bout d'un moment, j'ai fait allez, j'arrête de. Parce que je me suis mis à chanter en faisant de la batterie, à trouver les lignes mélodiques et tout. Donc à un moment, je me suis dit allez, assumons-le totalement et devenons chanteur. Donc après, j'ai été chanteur dans un groupe à Lyon pendant mes études et tout.
Et du coup, la musique rock, vu que ça part de là, là, Sum 41, Blink, du coup, t'étais dans cette tradition-là.
Tout à fait. Je suis un enfant du rock. Je suis pas un enfant du rap du tout. J'ai pas une culture rap. Enfin, tu vois, c'était un peu à l'époque où, quand t'étais au collège, t'avais ceux qui écoutaient Bob Marley, ceux qui écoutaient Eminem et ceux qui écoutaient du rock et du métal. Moi, j'étais dans la team rock métal.
Okay.
Et comme tu viens de le dire, Louis, fallait choisir. Mais en plus, le reggae, par exemple, c'est le genre musical qui ne m'a jamais, mais même encore, touché.
D'accord.
Genre, mon corps ne fonctionne pas sur cette espèce de contre-temps. Ça n'a jamais marché. Et le rap, évidemment, j'ai appris à l'aimer parce que ça a tellement transitionné aussi sur des mutations que c'est forcément devenu intéressant. Mais le rap initial, c'était pas, moi, ça me parlait pas, ça me touchait pas. Donc, ouais, enfant du rock. Et donc, après, du néo-métal. Mais tout de suite aussi, ce qui m'intéressait dans ce rock-là et dans ce néo-métal-là, c'était le mélange avec la musique traditionnelle. Donc, je vais citer des noms un peu sortis du chapeau, mais il y avait un groupe qui s'appelait Sepultura ou Soulfly, qui était du néo-métal brésilien, où en fait ils jouaient avec aussi les codes et les instruments traditionnels brésiliens. Il y avait System of a Down qui jouait avec la musique arménienne et des traditions arméniennes et des chœurs, des tonalités arméniennes. Et en fait, tout de suite, ce mélange, je trouvais de musique traditionnelle, ça donnait quelque chose qui était, mais en fait, alors pourquoi vous le faites pas tous, quoi? C'est incroyable en fait quand tu mélanges les sons anciens et les sons actuels. Et après, t'as eu Arcade Fire aussi qui a réussi à faire ça avec la musique haïtienne. Donc voilà, toujours, au final, il y a une espèce de fil rouge quand même qui est
Découverte et de l'ouverture musicale, quoi.
Et de la traditionnalité, de la musique traditionnelle mélangée à ça, quoi.
Ok.
Arcade Fire, Emaillé, System of a Down, mais en fait, tous ces groupes-là ont un lien commun qui est ils utilisent un peu leurs roots, leur tradition musicale, mais avec les codes actuels.
Mais c'est pas Emaillé qui avait fait un album où justement elle était partie dans toute l'Asie du Sud, justement à la découverte des différentes musiques traditionnelles pour justement les infuser dans son album, il me semble.
Peut-être, je t'avoue, je suis pas assez.
En tout cas, écoutez l'album Kala de Emaillé, vraiment, c'est. Il faut écouter cet album une fois tous les 6 mois, il est incroyable.
C'est bien, tu me donnes envie je l'ai écouté à l'époque, c'est sûr, mais tu vois, j'en ai plus un si grand souvenir.
Il a trop bien vieilli. Ouais. C'était en plus Diplo à la production à l'époque, juste avant aussi qu'il ait eu Major Lazer et tout, donc tu vois un peu la touche Diplo sur cet album.
Ça tombe bien parce que c'est exactement l'album dont je parle, car Wikipédia dit que justement, pour aller enregistrer l'album, et ils sont allés dans plein d'endroits, et donc c'est pas que en Asie du Sud. Louise dit n'importe quoi, mais c'est la moitié des infos. C'est en Inde, en Angola, au Libéria, Jamaïque, Australie, Trinidad.
Ils ont bien voyagé. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette première partie. Je vous propose qu'on passe au son d'après. Avant de présenter mon morceau, j'ai envie de commencer du coup par une question, parce que ça, je pense que ça va être très bien à l'introduire. On a abordé Setangana, et effectivement, on a cru comprendre qu'il y avait une sorte de grand amour pour cet album qui est sorti l'année dernière, El Madrileño. Pourquoi ? Je crois que tu le considères comme le plus grand album de la décennie ?
Ouais, l'album de la décennie,
tout simplement.
Bon, pour l'instant, on est en 2022, en février, mais à mon avis, il va falloir se lever très tôt pour arriver à le challenger sur l'album de la décennie.
Est-ce que tu peux nous en parler un peu et de tout cet amour que tu as pour Setangana ?
Alors, Setangana, déjà, moi j'avais découvert Setangana sur un morceau qui s'appelle Un Veneno, où déjà, à la base, c'était un mec que je trouvais intéressant, mais sans plus, il faisait de la trap en espagnol, il y avait une petite hype autour de lui et tout, donc j'écoutais avec curiosité, mais sans plus que ça. Et un jour, toujours chez Deezer, je reçois un mail pour me pitcher le morceau Un Veneno. C'est un boléro espagnol, petite guitare-voix et tout, et ce morceau, c'était, je crois, pareil, en 2018 ou 2019, donc bien, bien avant El Madrileño. Et j'ai écouté ce morceau, je l'ai trouvé incroyable. En fait, c'est pas un grand chanteur, Setangana, il susurre un peu, il a une petite voix, mais bon, en tout cas, il a une sensualité dans sa voix qui, déjà, sur ce type de son, j'avais trouvé ça incroyable et vraiment un coup de cœur. En plus, la pochette était un peu vintage, en mode pochette des années 70 avec les étiquettes et tout. Donc, tout était très beau, l'esthétique, le clip aussi, filmé caméra à l'ancienne, tout ça. Coup de cœur pour ce morceau. Entre temps, il a ressorti d'autres morceaux un peu plus trap, machin, donc très bien. Il continue sa petite carrière et là, il envoie donc le premier single d'El Madrileño qui est Tu me dejaste de querer. Et évidemment, bon, là, tout le monde se le prend d'une force incroyable, ce mélange flamenco, bachata. Il part avec la plus grosse bastos possible pour amorcer son album. Donc là, on est tous un peu comme ça, à se dire mais oula, mais c'est quoi cet ovni et tout. Et en fait, moi, intimement, je me disais oula, mais attends, s'il part dans ces délires un peu de musique tradie comme il l'avait fait sur Un Veneno, ça va être incroyable tellement j'avais aimé ce track. Et donc, du coup, après, il sort d'autres morceaux,
Demasiades Mujeres.
Demasiades, merci, à chaque fois je galère à le dire. Nunca Estoy. Et donc, du coup. Donc là, tu sens qu'il arrive avec ce genre-là. Et je reçois donc le lien de l'album un petit peu en avance. Oh. Je me rappelle, Tu sais, il y a le moment où t'appuies sur play, t'es un peu craintif, tu dis oula, on m'a bien ouais. teasé avec tout ça, là, est-ce que ça va être aussi bon? Et vraiment un peu ce moment, comme tu disais tout à l'heure, de tu t'écoutes quelque chose, mais là où t'es un peu dans ta bulle, où tu sais que t'es prêt, tu sais que tu vas t'en rappeler toute ta vie. Et dès la première écoute, je me suis dit, mais c'est incroyable ce que je viens de dire. Enfin, tu sais, vraiment, c'est dingue parce que t'as aussi souvent, je sais pas si ça vous le fait, mais des fois des moments un peu de résilience musicale où en fait tu dis ah j'aurai plus jamais de coup de cœur, genre c'était en fait quand j'étais ado peut-être ou nana mmh. ou quand est-ce que je vais en avoir un nouveau parce que t'écoutes plein de trucs mais y a rien qui t'emballe plus que ça. Et là vraiment un raz-de-marée émotionnel, donc en écoutant El Madrileño, surtout ce moi mon morceau préféré, mais je galère encore à le dire, c'est Ingo Bernabé.
Je suis avec toi, j'ai essayé de le dire 4 fois dans ce podcast et j'y arrive jamais.
Ma grand-mère m'entendait là, elle aurait honte. Du coup voilà quoi, d'arriver à avoir un format pop, un format tradi, d'avoir autant d'invités, d'être sur un hommage à l'Amérique latine, à l'Espagne, aux traditions, que ça soit d'un point de vue musical, d'un point de vue visuel, parce que il a plein de mini clips en fait où t'as soit ce côté repas de famille, soit des personnes âgées en train de danser la salsa dans une cuisine, mais à chaque fois tu retrouves l'Espagne qu'il a connue. Et en fait je pense qu'il m'a aussi énormément touché parce que c'est par son regard, je retrouve le regard de ma grand-mère, je retrouve derrière, je suis retourné à Madrid voir de la famille que j'avais pas vu depuis une éternité, donc en fait c'est, tu te dis, moi en fait je pense que c'est aussi pour ça qui m'a d'autant plus touché, c'est que c'est un peu ça retrace ma famille, l'histoire de ma famille, donc derrière tu replonges dans 10 000 sentiments passés. Il a réussi à donner ces émotions-là, mais à toute l'Espagne. Dans le sens où ça va autant parler, pour en avoir parlé justement avec ma famille qui habite à Madrid et tout, ça va autant parler à des anciens qui sont contents en fait que la musique tradie revienne, qu'à des jeunes qui la découvrent, qu'à des 30-40-naires en fait qui trouvent l'album excellent. Et en fait, il y a un peu ce côté communion en Espagne autour d'un artiste. Mmh. Là, il vient de commencer sa tournée à Malaga et il y avait une de nos reporters Jetlag qui y était.
Trop bien.
Et qui nous disait, ouais, c'est dingue, comme à la fois tout le monde connaît les paroles, mais où tu sens qu'il y a cette fierté nationale comme tu peux l'avoir peut-être avec un Bad Bunny à Porto Rico, mais il incarne l'Espagne et pas uniquement par il fait de la bonne musique, il incarne l'Espagne parce qu'il a réussi à mettre en exergue les codes de la culture espagnole et pas que de la musique, quoi, de la nourriture, des visuels, il y a un côté très almodovarien dans ses clips, des styles, enfin tout ça quoi. Donc en fait, vous vous rendez compte, si nous on avait en France un artiste qui arrivait à résumer un peu 100 ans de culture française de manière de la bonne manière,
c'est clair. Oui, j'arrive, mais tu sais, c'est difficile,
j'arrive
même de
pas
visualiser.
Imaginer.
Bah
ouais, c'est ça. En fait, c'est là où
quoi.
quand tu prends un peu de hauteur et que tu essaies de trouver une équivalence française de résumer un siècle de culture.
Faut se lever tôt, exactement.
Bah après c'est d'autant plus complexe si tu vas dans du régionalisme, ce genre de choses, et il a réussi un peu, enfin il l'a fait sans trop le faire quoi, ce côté, parce que l'Espagne, c'est nous on est régionaliste mais l'Espagne peut l'être encore plus.
Ouais, je vois.
Donc il est pas non plus parti dans un délire de le faire. Et c'est là où en fait il a réussi aussi de manière intelligente à faire un hommage à la culture espagnole mais aussi à la culture latine en mettant aussi certains invités, certains genres.
Ouais, c'est ça.
Donc latino quoi là-dedans. Donc c'est pour ça, c'est un mix de toutes ces saveurs-là qui rend l'album exceptionnel.
Je ne peux qu'être d'accord.
Sachant que là, je viens juste de faire un résumé de mes pensées, donc si vous voulez, on peut aller dans le détail de chaque chose, mais.
Non, c'est sûr. En vrai, non, on pompe pas plus parce que sinon, moi, clairement, ma présentation de l'artiste à venir n'est pas du tout à la hauteur. cet amour-là. Mais néanmoins, je voulais profiter du coup de ta venue pour parler, moi, d'une artiste qui est pareil, en fait, quelqu'un qui, je pense, maintenant assez identifié, mais du coup, que j'hésitais à ramener en me disant, tiens, c'est peut-être trop connu ou pas, mais dont j'ai vraiment adoré le dernier projet qu'elle a sorti. C'était fin 2020. C'est une chanteuse colombiano-américaine de son vrai nom Carly Marina Loisa aka Kali Uchis. Pour la faire court, en gros, je crois qu'elle naît en Colombie. Elle y vit jusqu'à ses 7 ans. Ensuite, avec sa famille, il bouge aux États-Unis. A priori, ça avait l'air d'être une enfant assez... Comment ?
Turbulente.
Turbulente, merci, je ne trouvais plus le mot. Mais du coup, elle se fait virer de chez elle par son père à l'âge de 17 ans. Elle a une période où en fait elle vit un peu dans sa bagnole, elle alterne petit boulot et lycée, jusqu'à ce que en fait, grâce au petit boulot, elle arrive à se financer sa première mixtape qui s'appelle Drunken Babel et son premier clip qui s'appelle What's They Say, et qui l'a fait à l'époque être repéré par Snoop Dogg. Et elle apparaît sur une de ses mixtapes.
Ah bon ?
Ouais.
Je savais pas.
Non plus.
Exactement. Et elle est repérée dans la foulée par Tyler the Creator, qui la convie sur son album Cherry Bomb. Et il l'aide en fait à produire son premier EP qui s'appelle Por la Vida. Elle se retrouve en fait à chanter sur des productions de Ketranada, Bad Bad Not Good et Diplo. Donc tu vois,
il est toujours dans les bons coups.
Comment bien commencer? Et en fait, en vrai, quand tu regardes un peu son parcours, c'est une ribambelle de collaborations, de connexions avec les noms les plus cools en fait de la musique des 10 dernières années. Donc j'essaie de la faire vite, mais Georgia Smith, Leon Bridges, Gorillaz, Godlink, Daniel César, Lana Del Rey, Thundercat, Steve Lacy. Bref, en vrai, tu vois, elle participe à leur tournée, elle fait des collaborations. Donc, vraiment, la demoiselle sait très bien s'entourer. Et fort de toutes ces rencontres, du coup, elle sort son tout premier album très réussi en 2018 qui s'appelle Isolation.
Incroyable.
Mais moi, j'avoue que je suis particulièrement tombé en amour pour le second, du coup, qui est sorti à la fin de l'année 2020 et qui s'appelle Sin Miedo de la Mort y Otros Demonios. Et c'est du coup le premier album où elle chante principalement en espagnol. Donc c'est aussi pour l'une des raisons qui m'a poussé à ramener cet album-là. J'ai choisi l'extrait Fue Meror en featuring avec Party Next Door. On écoute et je vous propose qu'on revienne parler un peu de Kali Uchis et de cet album.
Très bien.
Possessions, I don't need none of them. Tú no me mereces. Someone could come love me if somebody knew me. Tú no me conoces. Take a little sip, take a little bite. Don't wanna think, don't wanna talk. Cosas que se tatuan sin tinta. Fue mejor volar cuando caí. No, amor, no me duele perderte. Ya no estoy, pero nunca olvidarás.
On vient d'écouter Fue mejor de Kali Uchis.
Yes.
Je vais commencer par dire bon. Je ne vais pas vous demander si vous connaissez autour de la table, je pense que là, la réponse, je l'ai déjà.
Oui.
Mais Kali Uchis, est-ce que c'est déjà une artiste qui te parle, toi ?
C'est tout à fait une artiste qui me parle. En fait, elle me parle. C'est-à-dire que je ne suis pas un gros aficionado. J'aime bien, mais ça me parle, ça me parle sans me parler, dans le sens où ça me parle, ça me touche pas forcément musicalement parlant. Mais d'un autre côté, ça me touche parce que je trouve qu'elle a créé une vague autour d'elle et elle a ouvert en fait tout le champ du R&B latino.
Mmh. Ouais,
et je trouve qu'en fait elle a été ce porte-étendard d'un genre qui en fait est évident maintenant qu'on le dit, c'est-à-dire du R&B en espagnol,
yes.
bien original, mais en fait ça n'existait pas au niveau international tant que ça avant, et je trouve qu'elle a réussi à le populariser d'une manière ultra qualitative et qu'elle a ouvert la voie à des Senra par exemple, qui est un chanteur de R&B espagnol
dont j'ai parlé dans le podcast.
C'est incroyable. Ah ouais, ça, je me suis pris une grosse claque avec lui. Ouais.
Donc voilà, je trouve qu'elle a ouvert cette voie là et c'est tant mieux. Après, elle a un univers en plus assez atypique aussi, enfin bien
ouais, bah propre. C'est ça. Moi, je trouve qu'il y a des choses qui participent, tu sais, son look un peu pin-up des années 60. Bah d'ailleurs, quand tu lis un peu ses interviews, tu sais qu'elle admire Billie Holiday et la Fitzgerald. Mm-hmm. Et c'est encore plus cool, je crois que je l'ai vu dans le format court de Combini qui s'appelle Track ID. Elle a une cohérence, c'est-à-dire qu'elle te cite des artistes qu'elle adore, Brigitte Bardot, April March,
ah oui.
La Femme. Donc tu vois, il y a une sorte de cohérence plus globale et pas que, tu vois, aux États-Unis, quoi.
Ouais,
il y a
ouais.
vraiment, c'est-à-dire qu'elle s'est intéressée aussi aux artistes comme ça en France.
Et je crois que pour la jolie histoire aussi, c'est que c'était pas prévu qu'elle le sorte en espagnol, son album. Et
le dernier,
que,
là
ouais. Et alors je vais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'était pas prévu qu'elle le sorte en espagnol et qu'elle a un peu fait un fuck à sa maison de disque et qu'elle a décidé de le faire et que du coup, ça, c'est en espagnol que ça a cartonné, c'est ça qui lui a donné ce succès-là.
Ça, c'est là qu'on se rend compte que quand même ça a changé de ouf la dimension musicale, parce que à l'époque, je sais plus, j'avais regardé une vidéo sur YouTube qui retraçait la carrière de Nelly Furtado, qui a toujours voulu chanter en espagnol. Quand elle a signé Luz avec donc sa maison de disque et pour être produite par Timbaland et tout, elle fait un toncard, mais elle a signé avec sa maison de disque, elle dit ok, je fais cet album là, mais après je fais un album en espagnol parce que depuis le début je veux chanter en espagnol. Elle fait son album en espagnol qui ne marche pas du tout vraiment à l'époque. Et après, Timbaland est en mode, peut-être on peut refaire un album, parce que genre ça a marché, tu devrais peut-être essayer de refaire un album avec moi. Et elle est en mode, non, j'ai envie de chanter en espagnol, laissez-moi tranquille, tu vois. Plot twist, aujourd'hui, Kali Uchis, elle dit, excusez-moi, je fais mon album en espagnol et ça marche. Donc
ouais,
ça,
ouais.
C'est bien.
Puis ça, c'est quelque chose que tu sens quand tu lis un peu ses interviews. Elle a vraiment cette volonté
de pas ressembler à d'autres. Enfin, tu vois, elle veut vraiment faire son truc. Moi, j'allais dire, tu sais, dans les références, quand je l'entends sur l'album, notamment sur cet album-là, parfois j'ai des réminiscences de Lana Del Rey, parfois j'ai des réminiscences d'Amy Winehouse, même aussi. Il y a le look, évidemment, mais il y a, je trouve aussi dans la voix, dans la présence, le charisme même. Mais elle, vraiment, elle veut s'affranchir de toutes ces comparaisons-là. D'ailleurs, elle déteste ça. Elle veut vraiment être dense, tracer sa voix. Et en fait, pour revenir du coup sur l'album, moi, il y a ce qui m'a plu. Je pense que l'espagnol joue, mais c'est toute l'ambiance très classe, en fait, très élégant qui se dégage.
Et très sensuel aussi.
Ouais, exactement. Bah, en vrai, c'est un album parfait pour une soirée avec votre date.
Ah, que vous voulez séduire. Totalement.
Voilà, quelque chose de sensuel qui est pas nouveau dans la musique de Kaliouchis, mais je trouve qu'elle pousse vraiment un cran au-dessus. Et notamment, il y a des morceaux dans l'album. En vrai, t'as l'impression qu'elle postule pour faire le prochain James Bond, en fait. C'est la chanson originale du prochain James Bond, tellement c'est. Ouais, il y a ce charme-là, mais ça s'enferme pas non plus. C'est-à-dire que t'as à la fois aussi le banger avec Rico Nast, t'as le single pop imparable qui s'appelle Télépathia. J'ai hésité à ramener, mais j'avoue que je suis plus touché par cette ambiance là qu'on a entendue sur Fuego Mirror, un peu plus sombre, un peu plus sensuel. Mais voilà, il y a aussi le morceau, il y a deux morceaux un peu plus reggaeton. Et c'est ça que j'aime bien, c'est-à-dire qu'on sent une cohérence. Moi, vous savez l'amour que j'ai pour la cohérence d'un projet, et il y a vraiment ça dans celui-là, tout en mélangeant quand même aussi les genres musicaux, où vraiment tu sens qu'elle cherche à décloisonner ça. Donc t'entends un peu de pop, de la soul, du R&B, du reggae même à ses débuts, en fait, dans son premier EP pour La Vida. Il y a vraiment un morceau à l'identité reggae, et je trouve qu'il franchement fonctionne hyper bien.
Tu me diras lequel c'est, que je l'écoute pas du coup.
si je dis pas de bêtises, je crois que c'est le troisième piste de Por la Vida. Je trouve que c'est, en fait, c'est cool, tu vois, de cette prise de risque, et de le faire pareil, de le faire bien. Et là, en préparant la chronique, j'ai vraiment recreusé dans sa toute première mixtape et dans le premier EP que j'avais jamais écouté, et je trouve que, en fait, déjà tu sens une vraie identité. Moi, j'ai vraiment cette passion pour les ambiances qui se créent autour d'un album. Et je trouve que celui-là, moi, quand je me souviens très bien l'écouter, fin de journée, tu vois, la nuit qui commence à tomber, je crois que je dois être en train de travailler. Et vraiment, là, tu sais, t'entends ça, tu fais « Ok ».
Tu t'arrêtes.
Tu fais « Ok ». Là, tu m'invites dans un univers. « Ok, vas-y, je vais me poser avec toi. Je vais arrêter de travailler et je vais t'écouter. » On a l'habitude dans le podcast de recommander, de faire des petites recommandations un petit peu pour prolonger l'écoute. Donc évidemment, si vous avez, le morceau que vous avez entendu là vous a plu, je vous conseille bien sûr l'album Sin Miedo de la Mort y Otros Demonios.
Pour votre date tout seul ou en compagnie de quelqu'un,
exactement.
N'hésitez pas.
Et puis les deux autres rocos, c'est assez facile, mais évidemment, il y a l'album Isolation. Et je vous recommande aussi son premier EP Por la Vida, parce que je trouve que c'est intéressant de voir l'évolution tout simplement de l'artiste.
Okay. Ce qui est bien avec tout ce qu'on vient de se dire aussi, c'est de montrer à quel point l'album n'est pas mort. Je sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait quand même quelques années une crainte avec les plateformes de streaming, etc., que ce soit la fin de l'album, qu'il n'y ait que des singles, mais en fait non. Tu veux construire une carrière, mais c'est, enfin, et avoir un univers, c'est que par le biais de l'album.
Après, je pense que c'est quand même propre à l'auditeur, parce que là, j'ai l'impression qu'autour de la table, on reste attaché à ce format-là. Je sais pas si c'est le cas de tout le monde, parce que
je pense pas.
Ouais, mais au-delà de nous qui sommes en effet des amateurs, dans le sens aficionado, quand tu veux construire la carrière d'un artiste, t'es obligé à un moment donné aussi d'avoir quand même un univers, enfin d'avoir un projet autour de l'artiste. Et donc en fait derrière, alors sauf évidemment quand tu parles par exemple de single de DM où là parfois tu peux juste faire un remix, le mettre sur TikTok, ça peut cartonner. Mais c'est pas pérenne comme construction de carrière en fait. Oui. Et tu te dis, si tu veux construire une carrière, si tu veux avoir des choses à raconter dans les médias, en faire du live, bah c'est pas juste qu'avec des singles. Au bout d'un moment, il faut que tu te confrontes à sortir un projet, une identité.
Oui, c'est ça. Parce qu'en dehors des plateformes de streaming, en effet, j'imagine que les programmateurs de festivals, ils vont pas te programmer sur 4 singles.
Ah non, ils te programment sur une dynamique, ils te programment sur une sortie, une actu, des actus. Donc, faut être sur des articles de presse, sur de la promo. Et la promo, ça vient parce que tu racontes une histoire. Et l'histoire, tu la racontes par le biais de ton album en général.
Donc le single, là, c'est. Toi, ça, c'est des trucs sur lesquels tu taffes.
Tout à fait.
Ouais. Très bien.
Ouais, par exemple, réflexion dans les sorties, ce que tu envoies et comment.
Tout à fait. Okay. L'univers, justement, de dire à quel point l'univers visuel, l'image aussi est là pour supporter la musique, etc., etc. Après, derrière, quand tu réécoutes un artiste, forcément, t'as des images qui te viennent. Et alors, on parle du clip, mais on peut autant parler de la page Instagram, hein, parce que pour moi, la page Instagram, maintenant, c'est limite aussi important qu'un clip, mais c'est de te dire les éléments visuels qui font que tu vas te représenter l'artiste. Et que tu vas, quand tu vas l'écouter, tu vas penser à des choses. Et typiquement, bah, Rosalia, elle aurait jamais le dire avec un bon Z appuyé à la française. Rosalia, tu vois, si elle avait pas fait dans El Malquerer un passage avec un toréador qui utilise une moto et des ralentis dessus, je suis sûr qu'il n'aurait pas eu le même impact. C'est parfois par des symboliques que tu peux incarner quelque chose. Forcément, les gens qui vont découvrir, la grande majorité, c'est par le biais de l'image. Et l'image, c'est tu te façonnes. Je suis sûr qu'un groupe à l'époque comme Kiss, sans leur masque, ça aurait pas eu le même impact.
Ouais, ouais,
je sais, pareil. Enfin, tu vois, toujours cette idée de qu'est-ce que tu vas créer comme imagerie qui va s'insérer dans la tête des gens, et à chaque fois qu'ils vont écouter, ils vont penser à ça.
Ouais. C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, bah, ça me donne envie, on parle de la manière dont on écoute la musique. T'es du coup quel type d'auditeur ? C'est-à-dire que tu, voilà, tu ponces les albums, les playlists, comment tu découvres un peu de la musique, quoi ?
Alors, en tant que professionnel ou en tant que Robin amateur de musique ?
Eh ben, c'est intéressant déjà de savoir qu'il y a, il y a deux manières de le faire, c'est intéressant. Ça fait partie en tout cas des choses que l'on avait envie de te poser.
Ouais, bah du coup, vraiment d'un point de vue professionnel, c'est par tous les biais possibles. C'est-à-dire les playlists, les recommandations qu'on va m'envoyer, aller à des concerts, tout ça, tout ça. En tant que Robin, là, il y a forcément... En fait, il y a un volet... Quand je dis professionnel, c'est qu'il y a un volet vraiment où je ne le fais pas que par amour pur et dur, dans le sens où je vais écouter plein de choses qui vont pas forcément me parler.
Ah ouais.
Mais où je suis là à me dire, bah là, il y a un environnement intéressant, il y a musicalement c'est intéressant même si ça ne me parle pas. Donc il y a des choses qu'on peut développer avec cet artiste parce que voilà, il y a une patte. Après, de mon côté, je vais être un peu monomaniaque, c'est-à-dire que quand je vais aimer un artiste, je peux l'écouter en boucle, mais des jours durant, et ne faire que ça, et ne pas écouter d'autres choses. Et en fait, c'est peut-être parce qu'aussi, il y a un pendant où mon métier, c'est que d'être dans la découverte. Parfois, de l'autre côté, j'aime trop me mettre dans ma bulle, et en fait, écouter que des choses feel good du moment, ou des vieux albums, et n'écouter que ça en boucle. Donc ça diffère assez.
Et comment tu fais? Tu prends genre des plages horaires vraiment en dehors? Parce que peut-être c'est qu'une impression, mais moi, je vois juste à ma petite échelle, tu vois, avec le son d'après, presque maintenant, tout écoute est une, tu vois, est potentiellement quelque chose que je pourrais ramener ici. Et parfois, ça me matrixe un peu, quoi. C'est-à-dire que, justement, il y a toujours ce truc de... Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est cool? Est-ce que, enfin, tu vois.
Mais toi, ça te fait pas parfois d'écouter un album en disant, de toute façon, je sais que je vais rien en faire que juste l'écouter pour moi et l'apprécier. Où il n'y a pas de velléité professionnelle derrière, tu vois.
Bah, ça arrive, et effectivement, je vais avoir peut-être certaines marottes, tu vois, où quand je sais que j'ai besoin de mettre le cerveau de côté, justement, et de pas être attentif à tout. Et puis, parfois, t'as juste un bon album que t'as envie de réécouter. Mais je me rends compte qu'il y a aussi beaucoup d'albums que j'ai vraiment appréciés. Et que j'écoute pas tant que ça non plus, parce que il y a ce truc de
il faut toujours écouter,
il faut nouveautés. Toujours écouter la nouveauté pour essayer de ramener, quoi.
Bah, typiquement le vendredi, c'est vrai que c'est un peu la journée, tu sais, tu fais un effort, c'est-à-dire que le vendredi tu te mets la New Music Friday, t'écoutes tout, et puis après, en plus, quand t'es un professionnel de la musique ou t'es destiné à signer des artistes, le défaut parfois c'est d'écouter la musique en faisant autre chose, en répondant à des mails, et en fait t'es pas à la même écoute, donc faut aussi me garder sur du temps perso des moments pour écouter de la musique pour le pro, en fait, parce que quand je travaille à répondre à des mails, je suis obligé d'écouter la musique que je connais déjà, justement pour ne pas avoir besoin de me concentrer. Et à l'inverse, je vais écouter du coup le week-end peut-être des choses où là j'ai un album à écouter professionnellement, mais vu que j'ai pas d'autres emails auxquels répondre, bah du coup je vais me poser et faire ça. Et après t'as le moment aussi nostalgie où des fois tu vas être dans le métro, tu vas dire ok, c'est la demi-heure où je vais m'écouter les tubes d'adolescents parce que ça va me faire du bien, ou là tu vois, avant de venir dans le métro, je me suis fait le dernier album d'Angèle. Il y a aucune velléité professionnelle, mais juste je sais qu'il me met dans un mood un peu, je vais dehors et je l'aime bien, c'est de la pop facile mais qui est des petits bonbons, tu vois, où tu sais que t'as un quart d'heure de métro, bam, c'est ça. C'est vrai qu'après, quand tu travailles dans la musique, et vous, c'est la même chose, c'est que t'as plein de moments où là, ouais, c'est telle typologie de morceau, là, ça va être plutôt tel genre, là, ça va être pour faire telle chose ou telle chose, là, c'est de la découverte, là, c'est... Donc on s'auto-formate, en fait, nous-mêmes.
Ouais, ouf. Ouais, c'est sûr.
Et puis l'autre défaut aussi à faire un peu ce travail-là d'écoute à la chaîne, c'est qu'il y a plein de morceaux où t'as besoin d'écouter plusieurs fois pour l'aimer.
Oui.
Et que parfois tu vas pas te laisser de deuxième chance parce que tu l'as pas aimé à la première écoute. Après, malheureusement, on n'a pas le temps de tout non plus tout écouter, et heureusement, on n'a pas la place pour tout aimer. Donc en fait, c'est bien aussi d'avoir des choses qu'on déteste ou qu'on aime pas du tout.
Ouais, ça va, t'as encore ce.
On va dire sur le biais de jet lag, en effet, il y a des artistes que je peux être amené à détester, soit humainement, soit musicalement. Typiquement J Balvin, que je trouve de plus en plus horrible à écouter. Et puis même après dans un cercle un peu plus large de moi j'ai pas de mal à dire que oui par exemple dans le rap français je trouve ça pauvre depuis 2 ans où il se passe plus rien et ça manque d'innovation. Enfin voilà, oui, je peux aller sur plein de genres et avoir plein d'avis. Heureusement, je trouve ça bien plutôt que de dire tout que t'aimes à moitié ou.
Bah oui, pas... et puis alors, j'imagine surtout quand tu travailles dedans, c'est bien d'avoir un peu un avis, sinon tout est un peu tiède quoi.
Ouais, c'est ça, exactement.
Aussi tiède que la musique, justement.
Voilà,
que
et on fait pas ce métier pour de la tièdeur.
Ouais, bah non, je pense, c'est un peu dommage quoi. Moi, je vous propose qu'on passe au son d'après. Robin, c'est quoi ton deuxième son ?
Alors mon deuxième son, là, on s'en va d'Espagne, on s'en va des pays espagnols et latinos, et on revient en France, dans notre bon vieux terroir, pour parler de Mudi Monk et de son morceau appelé Intro, qui est donc l'intro de son nouvel album à venir. Et voilà, ça fait partie un peu des rares artistes, je trouve, actuellement, qui peuvent avoir, en fait, je le trouve intéressant parce que... Il innove assez, donc c'est un morceau un peu étrange, un peu casse-gueule dans la sonorité. Mais en même temps, je trouve que c'est cette typologie d'artiste qui peut avoir un potentiel international. Où il a un peu... Déjà, je trouve qu'à l'heure actuelle, il y a assez peu d'artistes électro-pop, tu vois, de qualité, dans le sens où on a eu un peu la vague Petit Biscuit. Moi, Petit Biscuit, ça ne m'a jamais intéressé ni touché.
C'est l'enfer.
Je trouvais ça chiant, toujours, tu vois, Petit Biscuit. Et avant ça, t'avais toute la vague French Touch qui dégageait quelque chose. Et je trouve que depuis, bon, t'as eu un peu Polo & Pan avec quelques morceaux, mais ça, tu vois, on a un peu perdu cette électro-pop française qui a un potentiel qui est déjà qualitatif et qui a un potentiel international. Et je trouve que du coup, on a un ambassadeur à l'heure actuelle, c'est Mudi Monk. Pour moi, c'est un peu mon espoir de cette French
J'ai
Touch 3.0.
Il est suisse, non ? Il me semble.
Tu me casses, t'es en train de totalement casser mon délire. Peut-être. Vérifions en direct. Alors en tout cas, je veux dire francophone, c'est pas français.
Non, parce qu'après, on va se faire taper sur les doigts.
Effectivement, il est né dans le canton de Fribourg.
Et bien voilà, donc on n'en a pas de français. Merci la Suisse, merci la Belgique d'être là.
D'être là pour la musique. Et c'est marrant, tiens.
Voilà, bonsoir, je m'arrête là.
Je sais pas, du coup, je crois pas l'avoir encore écouté ce morceau-là, mais instinctivement, je le rangerai pas dans la musique électro. C'est pour ça que ça m'intéresse d'écouter, parce que dans le premier album qui était sorti.
Oui.
J'ai pas de. Enfin, où l'identité, tu sais, me.
Toi, tu le mets dans quoi tu le rangerais si on doit catégoriser les artistes ?
L'horrible alternative.
Ah ouais, ok.
Je sais pas, mais c'est peut-être instinctif, mais peut-être que je dis des bêtises, hein. Ou presque pop, mais en fait, il y a quelque chose de.
Ouais, alt-pop.
Exactement, une pop alternative un peu éthérée, tu vois. Et, en tout cas, mais c'est parce que je l'associe pas à l'électro, mais du coup, franchement, écoutons le morceau, je vous propose, et débattons.
Alors, qu'en pensez-vous cette première écoute ?
Eh bah, très bien. En tout cas, moi, c'est vrai que ça me surprend du coup parce que c'est vraiment différent de ce que
le morceau,
de ce qu'il a fait avant, quoi.
Ouais, c'est 2-3 tubes qui étaient pop, clairement.
Ouais, pop. Moi, je sais que je crois que je le découvre à l'époque avec la prod Silon Ride avec Ichon. Tu vois, et du coup, par la suite, l'album qui était sorti. Mais c'est cool. Enfin, en vrai, j'aime bien. Et bah, tu parlais de French Touch. Effectivement, tu sens, je trouve, des petites réminiscences là-dedans.
Tout à fait. Et je trouve qu'il y a un peu. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un petit peu côté passage de relais, notamment parce qu'il a fait un concert donc à la salle Play il y a 2 mois avec Sébastien Tellier. Enfin, pas ensemble, c'était chacun leur tour, c'était un coplateau.
Ouais.
Et c'était un concert exclusif dans le sens où il a joué uniquement son prochain album à sortir.
D'accord.
Okay.
Et donc avec une scénographie très particulière où il avait une cage d'écran autour de lui, donc tu le voyais pas jouer d'instrument, il était vraiment juste lui, tout seul, avec ses écrans derrière, à incarner sa musique. C'était très beau. Et en fait, je trouvais qu'il y avait un peu ce, symboliquement, une sorte de passage de relais de Tellier, qui a déjà sorti plein de choses et qui n'a plus rien à prouver. Un peu comme si c'était ben voilà, le prochain maintenant un peu représentant de cette scène-là, ça peut être ouais. Moody Monk. Et on reste dans une forme d'esthétique un peu similaire, même si forcément les technologies évoluent, donc les sons évoluent un petit peu. Mais j'aime bien ce côté zone de confort où on sait qu'on sait bien faire ça en France depuis 20 ans. Et ben à chaque fois, tu vas avoir un nouvel artiste étendard, porte-drapeau de ce, enfin porte-drapeau pas de la France du coup, vu qu'il est suisse, on le redit, mais porte-drapeau de ce genre-là.
Et, ouais, ouais,
j'aime bien, c'est une zone de confort.
Je trouve que t'as raison, en tout cas la filiation dit comme ça paraît. Ouais, paraît assez limpide, ouais. Quand ouais. On a écouté ça, en tout cas.
Moi, je trouve ça hyper intriguant, en tout cas, d'écouter cet album, ce nouvel album-là, parce que je trouve qu'en effet, ça va un peu, ça va switcher de l'album précédent, c'est sûr. Mais tu vois, je suis contente de le réécouter une deuxième fois, parce que je l'avais écouté à la sortie, et j'étais un peu en mode, qu'est-ce que quoi, pourquoi ces sonorités? Et en fait, là, je suis en mode, bah, ça m'intéresse.
Ah bah, tu vois, c'est là où on parlait tout à l'heure, de ça, t'écoutes ça au milieu de tout le reste, un
exactement.
Vendredi, tu rentres pas dedans, c'est impossible.
Ah bah, je suis pas
alors qu'en fait tu te poses et t'écoutes
ouais, alors si tu te poses
millions,
t'écoutes l'album tu lances ça commence comme ça tu dis ah, ok bah ouais je vais écouter le morceau d'après
ouais. Clairement
c'est un chouette artiste me dit Monk en tout cas moi l'album Long Ride j'avais vraiment accroché quoi bon tout est dans le titre et on ici on a une sorte de passion pour la ride et cet album là était
alors,
vraiment était oui bon on l'a joué équipe ou on l'a joué pas équipe
on l'a joué
voilà.
Équipe si tu veux
en plus t'as parlé d'Ichon tout à l'heure et Dieu sait qu'on aime Ichon aussi
bien
donc,
sûr
ah, ça.
Ouais. Donc voilà c'est cette nouvelle scène enfin nouvelle elle est pas nouvelle mais en tout cas elle commence à parler au plus grand public français
et,
donc,
et toi l'album précédent t'avais parlé de Muddy Monk
tout à fait ouais. Je trouvais qu'il était en effet plus sur un format tubesque mais ouais, très très fort.
Et du coup, on en a déjà un peu parlé dans les morceaux précédents, mais c'est quoi la part, entre guillemets, de ce que t'écoutes entre les musiques hispanophones et le reste? Et tu vois, genre, est-ce que tu te gardes des moments juste pour jet lag? ou même, tu vois, dans tes DJ sets, parce qu'on n'a pas dit, mais t'es aussi DJ.
Ah oui, c'est vrai qu'on l'a pas dit, tout à l'heure dit donc.
On n'en a pas parlé.
Alors,
personne fait 500 choses.
C'est une bonne question, mais typiquement, prenons l'exemple du vendredi.
Ouais.
Le vendredi, déjà à minuit, je me fais une petite session par curiosité. Donc je regarde un peu qui est en cover. Alors, je me ligne pas au New Music Friday France, c'est-à-dire je regarde le Espagna, je regarde tous ceux où le créneau horaire à minuit fait que t'as déjà sorti donc l'anglais, l'allemand, l'espagnol, le français. Je regarde un peu qui est en cover et j'écoute, on va dire, les morceaux que j'ai envie d'écouter, où je savais que tel artiste allait le sortir. Ensuite, le vendredi, 10h du matin, je me fais la session française de 10 à midi, où vraiment là, je me fais les sorties rap, les sorties pop, les sorties par genre en France. Et en général, après, tu vois, de 13 à 15, je vais me faire là que... ou alors des fois, c'est l'inverse, des fois, c'est de 9 à 10, je vais me faire que l'Espagna pour pouvoir... Parce que tu vois, admettons, je commence à 10h mon travail officiel, ben, de 9 à 10, je vais faire l'Espagna, de 10 à midi, la France, et après, je reviens dessus de 13 à 15 pour voir en Colombie ce qui est sorti, nanana. Et tu vois, comme ça, tu organises un peu.
Ouais.
Mais tu es obligé de te segmenter par pays le vendredi. Mais ce qui fait que c'est un mix entre bah, tu écoutes l'Espagna et tu dis ah, bah tiens, ce morceau il va être trop bien pour faire du club, je le mets de côté, je le réécouterai plus tard. Ceux-là ils vont être trop bien pour les playlists jet lag. Ah, bah tiens, là dans les artistes français, lui je le connaissais pas, il peut être bien signé, je vais le contacter. Tu mets de côté. En fait, tu
donc, organises tout un tas de playlists un petit peu dans lesquelles tu
tout
ranges
à fait.
Les,
exactement.
Et, voilà, tes différents coups de cœur ou intérêts. Okay. Et tu parlais de différents genres, du coup, tu te. T'es vraiment ouvert à 360 ou est-ce que tu vois les New Music Friday en métal par exemple c'est quelque chose que tu vas aller diguer
Alors
non, mais
c'est une bonne question
je demandais c'est-à-dire à quel point t'étends parce que sinon en fait c'est pas possible il y a trop de choses
c'est vrai que c'est une bonne question après il y a dans le rock et le métal t'as pas tant de sorties que ça non plus donc
d'accord.
Tu pourrais le faire mais c'est vrai que le métal j'en écoute plus trop si ce n'est la nostalgie après on n'est pas à l'abri en tant que directeur artistique de se dire de tomber potentiellement un jour sur un groupe de métal hyper intéressant et de se dire pourquoi pas. Mais en tout cas, oui, en effet, c'est plutôt pop, électro, rap, musique latine, qu'est-ce que j'oublie comme genre, enfin voilà, les genres, on va dire un peu, les grands genres.
Les grands genres, voilà, et sur lesquels, enfin, qui sont proches aussi de
soul, jazz, tout ça.
De la de ta ligne éditoriale, quoi.
Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais du coup, après, c'est intéressant de voir qu'il peut y avoir des crossovers, typiquement Lazuli, qui est une jeune artiste que j'adore. Et apparemment, on vous avait déjà parlé dans une précédente émission, mais ce n'est pas grave.
Désolée, j'ai spoilé tout.
Ce n'est pas grave d'en reparler parce qu'elle vient de sortir un morceau avec King Doudou,
ouais.
Gaston Do. Mais tu vois, elle, typiquement, elle est un peu dans ce crossover de elle fonctionne et pour Jetlag et dans le cadre de mon métier. Ouais, c'est une artiste que j'adore qui n'a pas encore de label, donc on discute. Qui fait du franco-espagnol, etc. Donc ouais. De temps en temps, t'as comme ça des liens qui se font où tu peux ménager le chevelouche.
Moi qui ne connaissais pas Lazuli et Louise m'a fait découvrir, c'était charmé de voir qu'il y a des choses comme ça qui se font en France aussi, quoi.
Ouais, c'est vraiment très cool.
Est-ce qu'il y a un type de musique ou un artiste, enfin ça peut être. Voilà. Ce qui te vient, mais voilà un type de musique qui te met dans tes émotions.
Ouh, c'est une bonne question. Ça.
Ce type de voilà, bon, je pense que je sais pas si ça te, c'est la question te parle comme ça, mais oui, quelque chose où, voilà où pour se retrouver avec soi et avec ses émotions.
En fait, c'est à la fois une bonne question et une question traître dans le sens où forcément, quand tu écoutes de la musique, tu peux écouter de la musique pour aller chercher tel type d'émotion. Donc, tu vois, si tu veux te mettre dans tel
quelle
état émotionnel, tu vas plutôt aller chercher. Ouais, donc, quelle émotion ? Mais là, c'est pour ça que ta question, d'un côté, est intéressante, parce que tu dis tes émotions, donc il y a un côté un peu plus englobant et un peu plus
quête
de soi.
Oui, c'est ça, en tout cas, plus intime, on va dire, plus intime, plus perso, plus émotionnel, justement. Ouais.
Ok, alors, je vais répondre avec un groupe et un genre musical, mais un groupe qui s'appelle Explosion in the Sky.
J'adore, c'est validé à fond, ouais, grave.
Voilà, donc cette typologie, ou alors Mogwai, ou alors, mince, j'ai perdu le nom de nos chers Islandais, Sigur Rós. Voilà, cette esthétique-là, où on est sur des longues plages musicales, où on est sur des crescendo d'émotions, où on est sur des morceaux qui n'ont pas de limite, où tu sais que tu peux les laisser. Alors, on va dire que c'est intéressant, parce que c'est une forme de musique un peu méditative, dans le sens où parfois ça peut durer 10 minutes, où tu as ce côté, tout est en mineur, où c'est des couches de synthétiseurs qui s'ajoutent, soit de synthé, soit de guitare, soit de voix. Et c'est notamment avec Sigur Rós, ils le font très bien, quoi, parce que c'est les voix avec leur propre mélange entre des mots en islandais, ou parfois leur langage qu'ils ont créé, et voilà, des couches qui s'ajoutent. Et en fait, je trouve ça bien aussi d'avoir un peu ces musiques sans limite, où on est dans des corps de métier où on sait qu'en général, au bout de 3-4 minutes, ça s'arrête. Parfois, c'est bien en fait, de savoir que tu vas te poser la question et que tu peux laisser couler les choses. Donc voilà, je dirais cette typologie d'artiste. Le post-rock.
Ça me parle grave, on parlait, pour être tout à fait honnête avec toi, j'ai ramené Mogwai la semaine dernière. Voilà, donc c'était moi c'est pareil, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, et Explosion in the Sky c'est aussi un groupe que j'aime beaucoup, qui est totalement dans cette veine là et bah oui, ça me j'adhère, je valide tout à fait.
Non mais ça pose, c'est trop vraiment c'est ces moments pour toi quoi, où tu t'écoutes sans écouter, où tu pars loin avec et ouais, il t'embarque et un peu dans le même style. Alors je reviens forcément sur de la musique un petit peu en espagnol, mais il y a un artiste hyper intéressant qui s'appelle Raúl Jeffrey, qui est le producteur, en fait, le co-producteur avec Rosalía de son premier album. Et lui, en fait, il fait du flamenco, mais aussi du flamenco expérimental.
D'accord.
Et j'ai eu un coup de cœur pour cet artiste, notamment parce que c'est un peu dans ce délire d'Explosion in the Sky, sauf que c'est autour du flamenco, où il peut avoir des très longues plages avec des effets ultra chelous, une ambiance très bizarre, mais en même temps très émotive au niveau des accords mineurs et de l'addition des synthétiseurs. Et c'est une sacrée expérience, donc je vous invite à aller découvrir Raúl Jeffrey. Il fait plein de feats aussi avec des chanteurs de flamenco plus classiques, donc c'est pas du tout l'ambiance que je viens de décrire, parce que parfois ça part en envolée lyrique et rien à voir. Faut creuser.
Eh ben, super, je vous propose qu'on passe au son d'après.
C'est à moi de conclure, et c'était un peu difficile. Bon, vous avez l'habitude, je le dis à chaque épisode quasiment, que c'est difficile de faire des choix dans ma vie, voilà. Mais je me suis dit, ok, soit je joue la carte Memory Lane et je vais dans mes souvenirs, soit je vais sur la carte de la nouveauté. Donc j'ai pas mal hésité, j'en ai discuté avec Clément. Puis je me suis dit que la carte des souvenirs, elle était un peu facile, puisque j'ai failli ramener l'excellent titre Delay de Don Omar, issu de son premier album The Last Don. Parce que c'est un de mes premiers souvenirs perso de reggaeton, et que c'est un morceau que j'aime du plus profond de mon cœur, et que j'adore, et que j'ai envie d'écouter toute ma vie. Il est sorti en 2003, j'avais 11 ans, et en vrai, je sais pas si j'avais beaucoup plus de choses à dire que j'adore ce morceau. Mais je me suis dit que ça aurait pu être une bonne porte d'entrée pour aller sur les souvenirs musicaux et tout, mais on l'a déjà fait, et c'est cool que je l'ai pas fait finalement, parce que je me serais pris un mur, puisque t'aurais dit, bah moi j'écoutais Blink 182 et j'aurais fait bon. Du coup, à la place, eh bien, je vais plutôt ramener un peu une nouveauté, parce que, en fait, finalement, dans le son d'après, on aime bien aller creuser, diguer un peu les nouvelles personnes qui font la musique. Et du coup, l'artiste que j'ai choisi de présenter, tu la connais déjà, Robin. Car j'ai vu que tu l'as suivi sur Instagram. Je me suis dit que c'était...
Après, on suit beaucoup de gens qu'on ne connaît pas sur Instagram, attention.
Alors, on va voir. Elle a sorti son premier album là tout récemment et elle porte un tatouage de serpent au-dessus du sourcil. C'est une Espagnole, originaire des Canaries.
Ah bah,
Ptaceta.
Ouais, Ptaceta, ouais.
Tout à fait. Ptaceta, donc, c'est une rappeuse. Donc, elle est originaire des Canaries et elle est accompagnée de son producteur, Joaco. Lui, il s'est fait connaître via sa chaîne YouTube avec des remixes de plein de morceaux hispanophones. Et elle, de son côté, elle explique qu'elle chantait et elle écrivait pas mal pour elle-même pendant longtemps jusqu'à ce qu'elle découvre les battles de freestyle de rap. Et là, elle a fait ça m'intéresse. Et donc, elle s'est mise à rapper pour de bon et à structurer un peu ses chansons, quoi. Et en mars 2020, ils ont sorti un premier clip qui est un peu le clip qui les a fait connaître tous les deux, qui s'appelle Mami. Ça a fait a priori numéro 2 en Espagne selon plusieurs sources que j'ai lues, mais comme il y avait des sources plutôt random, je sais pas si j'ai vraiment raison. Mais voilà, moi personnellement, je la découvre l'année dernière grâce à Morgan qui gère le média slash la radio, le Girl Gang Radio, qui est un média, un compte Insta en tout cas, qui fait découvrir des artistes féminines que je vous conseille très fort, qui est très cool. Et elle m'a envoyé le morceau de Ptaceta qui s'appelle Tracata en featuring avec la colombienne Farina. Et c'était très cool. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais regarder ce qu'elle a sorti. À l'époque, elle avait encore pas sorti grand chose. Et là, elle vient de sortir son premier album qui s'appelle The Party and La Casa, qui porte bien son nom parce que j'imagine il a été fait pendant les dernières années, donc pendant la pandémie, et il contient beaucoup de titres pour bouger son boule en vérité. Et un exemple flagrant de ce que j'avance, c'est le troisième single qui s'appelle Tee-in, qu'on écoute tout de suite.
El escape culetao que va cargado de bala, quiero bailando a las mujeres malas, te voy a llevar de Holly para la cala, dado los sajones como tigre de bengala, yo lo quiero con una, con dos y con tres, tira por el suelo de espalda al revés, de viaje en Miami y seguimos redes, si no se despega porque la enredé, y me hace tilín, tilín, lo que quiere es un kiss, tilín, si termina la fiesta le tiro propuestas y no es pa' dormir, tilín, y me hace tilín, tilín, lo que quiere es un kiss, tilín, si termina la fiesta le tiro propuestas y no es pa' dormir, tilín, no hace falta pastilla, yo le quito los dolores, si tú quieres olvidarlo traje Mari pa' que enrole, estoy con dos morenas y una al pelo de colores, si de esta no me salgo quiero que me traigan flores, contigo el calentón es como si fuera fiebre, fuma, verde, si no viene de una se lo pierde, ese burrito pa' que lo entierre, le invitamos al party y no se va hasta que se cierre, la quiero en el cuarto, sea como sea la parto, dime lo que quieres que me adapto, no te hagas la dura que te rapto, y me hace tilín, tilín, lo que quieres es un kiss, tilín, si termina la fiesta le tiro propuestas y no es pa' dormir, tilín, y me hace tilín, tilín, lo que quieres es un kiss, tilín, si termina la fiesta le tiro propuestas y no es pa' dormir, tilín, dangerous, si viene al hotel en la suite resideño la parte y el dangabull, quiere verse conmigo, pierdo los estribos y le muerdo ese tanga azul, tú quieres de los míos, le meto mal lío, tú grita y lo baila, hood, tú grita y lo baila, hood, y me hace tilín, tilín.
Ptaceta, tilín. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Robin ? Tu connaissais déjà ?
Tout à fait, j'aime beaucoup. Putain, c'est clair. Non, mais vraiment, je trouve qu'elle incarne, enfin, pas que elle, mais il y a toute une vague un peu d'artistes underground, comme on dit, mais on va dire un peu qui font du dembo, qui font du reggaeton un peu revisité, ouais. Et qui sont un peu, je trouve, la nouvelle vague intéressante, en fait, de cette scène latine. Mm-hmm. Et sur forcément des ups un peu, enfin, des tempos un peu élevés. Et voilà, quoi, c'est frais, c'est léger, ouais. T'as envie de faire la fête.
De ouf. Bah, je pense que ça correspond bien avec ce qu'elle annonce en titre d'album, tu vois.
Ah bah, oui, clairement.
Elle te met des petites bastos, bon d'accord, oui.
Ah, puis il y a des vraies productions électro, en fait, derrière. Ouais. C'est un vrai... Là, on n'est pas dans le reggaeton du tout, on est sur de l'électro en espagnol, presque. Ouais, ouais. C'est un côté un peu trance, un peu...
Il y a plein de trucs, en fait, c'est assez intéressant. Enfin, je sais pas si t'as écouté l'album, du coup.
Non, qui est sorti, non. Tu vois, c'est...
Récemment, bah justement, en fait, je trouve que l'album, il est assez inégal. Ouais. Je me demande si c'est pas dû au fait que donc elle a eu un succès assez fulgurant la dernière année à peu près. Et du coup, je me demande s'ils ont pas sorti un album tous les deux en mode il faut qu'on sorte un truc et du coup on va proposer un projet. J'ai trouvé qu'il y avait par exemple le Input qui ouvre l'album, qui est le morceau d'intro. Il y a à un moment donné un synthé vraiment EDM, tu sais, les synthés saut là qui sont avec les ondes en dancey là, qui vraiment sonnent pour moi Skrillex dubstep mais de 2010, qui est un peu trop agressif. Et c'est que un moment, tu vois, mais ça me fait tiquer à chaque fois que j'écoute le morceau. Et du coup, je suis un peu moins fan, en tout cas, de cette évolution-là.
On n'a aucune nostalgie pour tous ces sons-là. Hein,
c'est vraiment, ça.
Sombre de l'histoire musicale.
Ça fait plusieurs fois qu'on en parle et c'est vrai que voilà. Mais il y a d'autres morceaux, en tout cas, qui sont dans des vibes plus classiques reggaeton, auxquels on est plus habitué. En tout cas, par exemple, il y a un morceau qui s'appelle Shorty, qui est pour le coup, qui réinvente rien musicalement, tu vois, mais qui est efficace et tu connais la recette, entre guillemets, et ouais. Du coup, c'est assez cool. Et je trouve que le morceau, je crois que c'est le morceau de conclusion qui s'appelle Fin de Fiesta Mujer, qui est vraiment intéressant au niveau des percussions, pareil, qui est un truc pareil avec une mélodie assez sombre et des percus hyper présentes. Un peu ce qu'elle fait de manière générale, je trouve que ce que j'aime en tout cas dans sa patte à elle, c'est ce côté. Enfin, dans sa patte à elle, plutôt la patte de son producteur du coup, mais c'est ce côté un peu percussion vénère que t'as pas forcément l'habitude d'entendre, ou en tout cas aussi présente sur le devant du track. Et elle, je trouve qu'elle a un flow extrêmement cool, enfin vraiment. Et là, en préparant, du coup, j'ai été un peu regarder des trucs qu'elle avait fait, et elle a fait une session avec Bizarre Rap. Je sais pas si tu connais Bizarre Rap.
Non, je ne connais pas.
Tu ne connais pas. C'est un producteur argentin qui a 12 millions d'abonnés sur YouTube.
Pas mal.
Et qui fait en gros des sessions de...
Il a réinventé la roue, quoi.
Ouais, grave.
C'est-à-dire que vraiment, j'ai un studio, viens chez moi, pose un couplet, quoi, pose un flow, et puis on va mettre ça sur YouTube, puis on va voir ce que ça donne. Et en l'espace de 2 ans, au début, il était parti avec des petits artistes argentins. À un moment, il en a fait un avec Nati Peluso qui place.
Incroyable.
Hein. Oh là là, elle a un flow sur ce morceau. Enfin, il est dingue. Et en fait, ça, déjà, ça l'a fait monter d'une step. Il s'est mis à inviter des plus gros artistes hors Argentine. Là, il en a fait un avec le premier artiste non espagnol, enfin non chantant en espagnol, c'est MHD. Ouais. Il va jouer à Lollapalooza. Enfin, c'est devenu le producteur du moment.
Et c'est lui à chaque fois, c'est ses prods à lui, du coup, sur lequel il s'est posé. Okay.
Ouais.
Et donc, elle a fait. Taceta, elle a fait un morceau avec lui, comme celui de Nati Peluso, où il y a vraiment y a une attitude et un flow qui se dégage de la meuf. T'es vraiment en mode putain, mais elles sont trop fortes. Et Nati Peluso, c'est pareil, je suis d'accord avec toi. Il y a un truc vraiment de prestance et tout. Et je regardais, il y a une autre artiste féminine sur la chaîne de Bizarre Rap qui vient poser, c'est Snow the Product.
Ouais, il est trop bien aussi celui-là, c'est Bizarre Rap.
Trop forte. Comme Taceta, il y a ce côté, ce flow en espagnol qui est genre qui ne s'arrête jamais. Et t'es vraiment en mode, wow, je viens de me prendre une claque incroyable, c'est trop cool. Et du coup, je voulais ramener Taceta parce que toi, à la base, Robin, quand je t'ai demandé quel morceau tu veux ramener, tu m'as dit, bon, il y aura Rosalía ou c'est en Ghana. Et après, tu m'as dit Lazuli. Et j'ai dit, ah, dommage, j'ai déjà parlé de Lazuli. Je suis obligée de te dire de ramener quelqu'un d'autre. Mais du coup, je voulais quand même qu'on en parle, en fait, de cet amour de la découverte et de la nouvelle scène. Et du coup, on en a déjà un peu parlé, c'est via ton travail et tout. Mais est-ce qu'en dehors de ça, c'était un truc avant même d'être ton taf que tu recherchais les nouveaux artistes à te dire, genre, je veux être le premier un peu?
Je pense qu'en fait, c'est un peu le tout amoureux de la musique a toujours envie de découvrir en premier et de le faire découvrir aux autres. Ouais. Et après, on est tous un peu dégoûtés quand ceux qu'on a fait découvrir à tout le monde deviennent des pop stars et que tout le monde les connaît. On a un peu envie de les garder pour soi en même temps. Donc, je pense qu'en soi, toute personne qui devient DA, en fait, de base, il aime diguer et il aime trouver des artistes et il aime les faire connaître à ses proches et dire, hey, j'étais le premier, hey, c'est grâce à moi que tu l'as découvert. Donc ouais, c'est un peu ça qui nous anime, ça qui est beau, c'est de temps en temps, en effet, d'avoir des coups de cœur et de, comme on le disait tout à l'heure, c'est que parfois tu vas faire des traversées du désert sans coup de cœur, et puis après, paf, tu vas tomber sur tel artiste et te dire, ah, c'est pour ça que je fais ce métier, en fait, c'est vrai, j'avais oublié ce sentiment de petit cœur qui se réchauffe quand t'as une découverte musicale qui te plaît.
En tout cas, pour conclure un peu sur Taceta, pour prolonger l'écoute, je vous conseille quand même d'aller écouter son album De Parti en la Casa, parce que ça vaut le coup, ça vaut le détour, et c'est surtout une artiste qui n'est pas encore très connue, quoi. Donc comme ça, vous pourrez dire à vos amis, c'est grâce au son d'après que j'ai découvert ça. Sa session, bien sûr, avec Bizarre Rap, ainsi que celle de Nati Peluso et celle de Snowda Product que j'ai déjà assez citée, et le morceau Tracata, avec laquelle je la découvre, en featuring avec Farina et Juaco, du coup, son producteur. Voilà pour moi.
Très bien. Et bah du coup, on s'approche de la fin. Robin, avant de partir déjà, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, est-ce que tu as une actualité à partager ou quelque chose
L'actu du moment d'un point de vue soirée, ça va reprendre, mais plus à partir de mars-avril.
Ok.
Donc, tu me diras, on est déjà fin février, donc ça va vite arriver. Mais écoute, il y a les 8 ans de Rins à la Machine du Moulin Rouge le 8 avril, pour lesquels nous allons mixer avec Pedro Hito.
Trop bien.
Donc, Pedro Hito et moi en DJ set sur 1h30, je crois. Donc full dembo dominicain, je pense.
Yes.
Et up tempo, comme on dit. Ensuite, dans les actus, on va dire un peu plus en termes de DA, il y a Anna Magidson, qui est une artiste qu'on adore, voilà, qui est chez nous, et on vous invite d'aller écouter son futur EP, parce qu'on adore et humainement et musicalement cette personne.
On ira écouter.
Donc voilà, une petite actualité de bah, c'est pas une nouvelle artiste, mais en tout cas d'artiste on the rise, comme on dit, qui monte sur la scène française.
Vraiment, beaucoup aimé son EP de l'année dernière.
Et l'autre actualité, c'est tenez-vous prêt pour Motomami, quoi. J'ai envie de vous dire, il vous reste 2 semaines avant sa sortie, donc
ça va arriver.
Ça, c'est de l'actualité.
Et si les gens veulent te retrouver, du coup, ils te suivent où?
Alors, ils viennent au 31. on est présent sur Instagram hein, principalement, donc Okabeloka comme on disait tout à l'heure, et sur Twitter je sais plus, que j'ai dû changer mon nom une fois. Ouais, sur Twitter une fois j'avais fait un live juste après la sortie de La Fama, où il y avait des débats de appropriation culturelle ou pas par Rosalia parce qu'elle fait de la bachata, blablabla. Et donc du coup j'avais fait un live avec Jetlag. Ce live à un moment donné avait coupé pour je ne sais plus quelle raison, donc j'avais dû en créer un autre avec mon compte perso qui à l'époque était Robin Beloka je crois. Et il y avait un mec apparemment qui aimait beaucoup ce que j'exprimais là-dessus. Enfin, on va pas rentrer dans le débat sauf si vous avez envie, mais en tout cas où je me disais que ce n'est absolument pas de l'appropriation culturelle. Et il y en avait un qui arrêtait pas de dire le monsieur de Jetlag, je connais pas son prénom mais je le suce. Grosso modo, c'était ça. Donc à partir de là, je me suis appelé Monsieur Jetlag sur Twitter. Donc vous pouvez me retrouver sous le nom de Monsieur Jetlag. Je trouvais que c'était le plus beau des compliments de m'appeler comme ça et de dire qu'il était d'accord de cette manière.
Oui, c'est beau.
Bah écoute, de toute manière. On mettra tous ces liens-là dans les notes du podcast. Et là, du coup,
ainsi que Jetlag, bien sûr.
Je te tends, évidemment. Je te tends la perche.
Tu me tends la perche, bien sûr. Et bien, comme toujours, on mettra tous les noms d'albums, d'artistes, etc. qu'on a cités dans les notes du podcast. Ça sera un Google Doc, car comme tous les épisodes avec les invités, on fait 500 références. Donc, ça sera un Google Doc, car on n'aura sinon pas la place de le mettre dans les notes de notre podcast habituel. Et sinon, vous retrouvez les 4 morceaux qu'on a présentés dans la playlist Le Son d'Après, qui est dispo sur les plateformes de type Deezer, Spotify, Apple Music ainsi que YouTube. Et puis, si jamais ça vous a plu déjà et que vous venez de la part de Robin, bah, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et à écouter peut-être d'autres épisodes. Et puis, si ça vous plaît vraiment fort et que ça fait plein d'épisodes que vous écoutez, si vous avez 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, pour nous mettre 5 étoiles sur Spotify ou sur Apple Podcast et pour mettre un petit commentaire sur Apple Podcast, ça nous ferait très plaisir et ça nous aide à mieux référencer ce podcast.
Exactement.
Ce qui est très important.
Et en l'occurrence...
Et vous pouvez aussi en parler à vos amis, bien sûr.
Robin nous a parlé d'une artiste. Il n'est pas impossible qu'elle arrive prochainement dans...
Oh là là.
Je dis ça, je dis rien.
Incroyable.
Écoute, je pense qu'on a fait le tour de la question, mais avant de partir, on a une dernière question.
Oh, j'adore. À chaque fois, il y a des nouveaux trucs à raconter.
Robin, c'est quoi le son d'après cet enregistrement? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu vas écouter après cet enregistrement?
Bah, en fait, en soi, j'étais tout à l'heure dans ma dynamique Angèle, clairement, parce que j'aime bien son dernier album. Comme je le disais tout à l'heure, on est sur de la bonne pop. Et il n'y en a pas beaucoup de la bonne pop française au final, donc c'est rare. Et donc du coup, vraiment, j'aime bien son dernier album. Mais là, le fait d'avoir parlé autant de musique, ça donne envie en fait d'écouter 10 000 choses différentes. Là, clairement, à l'heure de l'enregistrement, on voit que le ciel est en train de tomber. Mm-hmm. Donc, je pense que je vais avoir toujours envie de rester dans une dynamique good mood, tu vois, pour prendre les transports en commun. Autre album de pop très bon de ces derniers temps, c'est le dernier album de The Weeknd. Que je trouve pas forcément homogène, mais en tout cas, il y a des bangers incroyables dessus. D'accord. Et mon préféré, c'est... Alors, un peu en up-tempo, justement, Take My Breath.
Parfait.
Voilà, on part là-dessus.
C'est une très belle manière de conclure cet épisode. On te remercie une nouvelle fois.
Merci à vous, c'était trop bien de parler autant de musique si longuement.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
Parce que l'auditeur n'est pas au courant, mais ce que l'auditeur, je crois, va écouter un podcast de 1h15 à peu près, alors que ça fait 6h qu'on parle de musique tous
voilà,
ensemble.
Exactement. Clément?
Ouais, et nous, qu'est-ce qu'on se dit, c'est ça?
Oui, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'on se dit?
Eh ben nous, on se dit à la semaine prochaine. Take